Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et la nuit de dimanche à lundi à minuit. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir.
Et on se retrouve le vendredi 8 décembre autour d'une conférence débat avec Bernard Legros et Jean-Christophe Gugliani autour de leur livre « Le travail et après ». De 19h30 à 22h au LAG, l'adresse, je le rappelle, est 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Donc voici le résumé du livre. Faut-il un travail pour tous ? Le travail est-il l'élément structurant la vie individuelle et collective ? Et le salariat, le seul horizon existentiel ?
Bonjour à tous et à toutes, ici Jonathan Lemaitre de Micro Rebelle. Alors pour les jeunes, les femmes, tous et toutes, l'association locale du planning familial vous accueille chaque jeudi de 17h30 à 18h30 au Moulin de Tous à Angres, à la rue Clémenceau, à partir du jeudi 7 décembre 2017, autour d'un verre ou d'une tasse de café, pour un moment de détente, pour s'informer sur la sexualité, la contraception, l'avortement, les droits des femmes, les violences ainsi que l'égalité filles-garçons. Vous pouvez les contacter sur angre@planningfamilial62.org. L'association Schfed et la compagnie Trou de mémoire ont le plaisir de vous inviter à la première du spectacle L'être anonyme, qui se déroulera le vendredi 8 décembre à 20h dans le cadre du festival Les Fugues Sonores du 99 bis de Wandy. La représentation aura lieu au métaphone rue du Tourdoir, 62-590 à Wani. Alors, je vais vous présenter la synopsis du théâtre. Parce que les histoires sont toujours mieux racontées par ceux qui en sont les héritiers, des jeunes libère-courtois, mettent en scène l'histoire de leurs grands-parents à travers une création artistique hip-hop entre amour, colère et tristesse. C'est avec dignité que ces jeunes transmettent la mémoire passée des mines et des immigrations pour éclairer les enjeux du présent. Le tarif est de 2 euros. Vous pouvez réserver par téléphone au 03 21 08 08 00 au métaphone ou au 06 87 02 65 63 au Schfed.
Jusqu'où faut-il aller par amour des animaux ? C'est que tente d'essayer de montrer nos chers véganes lors d'une soirée autour d'un repas suivi d'un film le 9 décembre de 18h à 22h30 au LAG, le 23 avenue Jean Jaurès à Liévin.
On se retrouve le mardi 12 décembre 2017 avec la diffusion du film documentaire de Mickey Lenné et Maxime Pozderin à 20h. Ça se passera, je le répète, le mardi 12 décembre au Métaphone, situé au 99 bis à Wany à 20h. Du coup, c'est à 20 minutes de Lens, Arras et Lille. Ce film parlera du groupe de féministes Pussy Riot, dont les membres sont allés en prison pour avoir chanté en 2012 une prière punk dans la cathédrale de Moscou. C'est totalement gratuit et la réservation est au 03 21 08 08 00 en partenariat avec Amnesty International France, pardon, dans le cadre de la campagne 10 jours pour signer. La projection sera suivie d'un débat mené par Amnesty International France.
Eh bien, je vous propose maintenant une première pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir le groupe Lise. Deux guitares, une batterie pour des balades rock cristallines et en français, s'il vous plaît. Voici en peu de mots de quoi est fait le monde du groupe Lise, dont la formule fonctionne à plein régime sur certains titres, comme par exemple « La fin du monde » que je vous propose maintenant.
Thank you. bravant le vide, belle promesse.
C'est maintenant l'heure de notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Aujourd'hui, nous revenons sur la journée organisée par le planning familial du Pas-de-Calais, Amnesty International, le CIDFF, Solfa Bruneau et l'association Vestali dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes. Pour ces associations, lutter contre les violences signifie bien entendu de prendre en charge les victimes et d'agir auprès des agresseurs. Mais cela signifie aussi d'agir en amont pour éviter que les violences n'arrivent. Et agir en amont, ça veut dire éduquer les enfants à l'égalité filles-garçons et puis agir dans la société pour mettre fin aux stéréotypes sexistes qui existent. Cette journée a eu lieu le jeudi 23 novembre, une journée d'animation en direction des écoles, des associations, des habitantes et habitants du bassin minier. Je vous retrouve tout de suite après ce reportage.
Alors, Madame Stievenard, donc enseignante de CE2, CM1, quel est le sens de votre participation, hein, à vous et à votre classe évidemment, à cette journée sur l'égalité homme-femme, les violences faites aux femmes, quel est le sens de votre présence aujourd'hui ?
Bien, nous avons été invités par la municipalité, donc nous venons à plusieurs classes pour assister aux différentes animations. L'objectif, c'est surtout d'un petit peu de casser les différents stéréotypes que l'on pourrait avoir, même s'il s'avère que finalement, au vu des ateliers que nous avons pratiqués, nos élèves n'en ont finalement pas tant que ça. On s'aperçoit que de plus en plus de filles jouent au football, inversement des garçons qui apprécient des activités un petit peu plus calmes et a priori dans la représentation qui s'adresserait plus à des filles. Et par contre, on découvre effectivement des petits comportements récréation qu'on ne soupçonnait pas forcément, et donc il est intéressant d'en parler, d'en discuter avec les enfants et de faire un petit peu évoluer les choses. Voilà.
Alors justement, est-ce que ce sont des thématiques qui sont abordées dans le milieu scolaire d'une manière générale ?
Alors, l'égalité est effectivement abordée par le biais de l'histoire, par le biais de l'enseignement moral et civique. On a l'occasion effectivement d'en discuter avec les enfants. On organise également des débats sur ce thème. On découvre les différents droits, le droit de l'homme, le droit de l'enfant, donc à différents niveaux, de façon plus simple et un peu plus complexe en CM2. Voilà, donc on l'aborde très régulièrement.
Alors peut-être une toute dernière question, hein, en CE2, CM1, quels sont les stéréotypes qui existent, comment est-ce qu'on les fait avancer, y compris les questions que se posent les garçons et les filles ?
Écoutez, comme je vous disais, finalement on a été un petit peu surpris par le peu de stéréotypes qu'ils avaient. Ils semblent penser qu'il est tout à fait normal que, comme je vous le dis, par exemple, les filles jouent au foot. On a des enfants qui sont plutôt sur un principe d'égalité. Donc agréablement surprise en fait.
Madame Sévenard, merci et bonne continuation.
Merci bien, à vous.
Alors Aurélie, quand on vous a parlé de cette journée sur l'égalité homme-femme, sur les violences faites aux femmes, qu'est-ce qui vous a motivé finalement ?
En fait, la motivation, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on est en association passerelle de Liévin. Et comme nous, on est en tant que femmes, tout ça, c'est vrai que c'est intéressant, quoi, puis on apprend des choses.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez découvert ce matin ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de l'ensemble de ces activités sur la question des hommes et des femmes ?
En fait, là, on se rend compte qu'en fait, que nous, les femmes, y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du travail par rapport aux hommes, tout ça. Mais c'est très intéressant. Franchement, on a découvert des choses que...
Alors, par exemple, c'est quoi ce chemin qui reste à faire ? Qu'est-ce qu'il y a encore comme stéréotype qui sépare les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'il y a encore comme...
Il y en a trop encore et je pense pas que ça changera un jour. Moi, c'est mon objectif, enfin c'est mon truc à moi, j'y crois pas trop quoi.
Mais pourquoi ça changerait pas?
J'y crois pas.
Mais pourtant vous êtes là, vous avez envie de vous battre?
Bah oui justement, mais bon c'est bien beau de faire tout ça, mais bon, on a encore un peu de doute quoi.
Alors par exemple, quelle est... Quelle inégalité?
C'est sur la violence des femmes quoi. Que c'est encore, ça arrive encore trop souvent, voilà quoi.
Avec y compris un décès tous les deux ou trois jours. Hein.
Trois jours,
oui. C'est... alors peut-être, même si vous n'y croyez pas, il n'y a pas une idée ou un domaine sur lequel vous auriez envie de faire une proposition
Bah moi c'est ça, c'est les violences sur femmes, j'aimerais bien... Que ça travaille encore un petit peu plus.
Eh ben merci Aurélie.
Merci beaucoup.
Alors Sandra, vous faites également partie du groupe Passerelle. Hein. Alors justement, vous, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a intéressé ce matin?
J'ai appris beaucoup de choses sur hommes et femmes.
Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez appris typiquement?
Que je ne savais pas que pour les hommes, il y a la violence.
C'est quelque chose que vous avez découvert ce matin, c'est vrai?
Mais après, il y a d'autres choses aussi.
Alors, par exemple?
On a fait des jeux aussi, puis avec les boîtes. Puis on a gagné chacun deux pastilles de planning familial.
Alors, c'était quoi ce jeu avec les boîtes, là? Est-ce que vous pouvez l'expliquer pour nos auditrices et nos auditeurs?
En fait, il faut passer... le monsieur il pose la question et il fallait répondre... il fallait mettre la pastille dans chacun d'une boîte.
Il y avait des questions difficiles?
Pour moi, c'était difficile, mais avec mes collègues, ils arrivaient.
Très bien. Eh bien, merci Sandra, puis bonne continuation.
Merci à vous. De rien.
Alors, dans le groupe de Passerelle, il y a également un homme, hein, André. Alors, André, bonjour. Alors, bonjour. Qu'est-ce qui vous a intéressé, motivé ce matin?
C'est de venir pour les tout ce qu'on parle d'aujourd'hui, je pourrais pas vous dire.
Cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes, cette question des relations entre les hommes et les femmes, comment est-ce que vous la voyez?
Pour moi c'est pareil, y a pas une femme et un homme, moi c'est pareil. Il n'y a pas d'égalité, que ce soit l'homme est plus haut que la femme. Pour moi l'homme c'est pareil, 50-50.
Mais malheureusement, c'est pas le cas dans la société.
Malheureusement, oui, c'est sûr que c'est pas le cas, mais voilà quoi.
Alors, parmi les inégalités entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il y en a quelques-unes ou une en particulier qui retient votre attention? Qu'est-ce qui vous semble le plus choquant en fait?
Le plus choquant, c'est que les femmes ils sont payées moins que les hommes. Puis voilà.
Eh bien, merci André, puis bonne continuation.
Merci de rien.
Bien, je suis maintenant avec Bernadette, du groupe de Lens de l'association Amnesty International. Alors Bernadette, quel est le sens de la présence de Amnesty International à cette journée?
En fait, c'est pouvoir parler des violences qui sont faites aux femmes à l'international, et c'est bien de se regrouper avec des associations qui travaillent sur le terrain. Mais il faut qu'on puisse parler pas seulement de la France, mais des autres pays. Pour montrer que les violences, c'est universel en fait. Et que donc le travail d'Amnesty, c'est de travailler, de demander au gouvernement de changer les choses pour les femmes. Et aussi informer les personnes d'ici qu'on peut travailler sur l'international en signant des pétitions par exemple.
Alors aujourd'hui dans cette journée, là, j'ai vu que Amnesty International avait un stand qui a été visité par des enfants, des adultes. Est-ce que tu peux nous présenter cette activité?
Alors l'activité qu'on a proposée aujourd'hui, c'était la lecture d'un conte qui s'appelle « Les souliers écarlates ». Et c'était pour amener d'une façon, d'une autre manière, les violences qui sont faites aux femmes et montrer aux enfants, interroger les enfants, leur demander ce qu'ils ont retenu de l'histoire et justement leur faire sortir cette idée de violence qui est faite aux femmes, que la femme peut devenir un objet, mais aussi ramener ça à l'être humain, à savoir que les violences peuvent être aussi faites en sens inverse, hein, les femmes envers les hommes. Ça arrive moins, mais ça arrive quand même. Donc ce qu'on a voulu faire passer comme message, c'est le respect des uns et des autres et aussi pouvoir avoir la liberté de choix.
Alors dans le cadre de ces rencontres, hein, autour du stand, hein, et puis des discussions d'Amnesty International avec les visiteuses et les visiteurs, est-ce qu'il y a eu des moments marquants, est-ce qu'il y a eu des choses qui sont ressorties?
Il y a un enfant qui nous a particulièrement marqué en disant à la fin que en fait le respect c'était l'amour. Et donc ça, on a trouvé ça vraiment beau. Et après, il y a un autre enfant qui a beaucoup participé et qui répondait vraiment de façon très appropriée aux questions qu'on lui posait. Et cet enfant, l'institutrice, nous a dit après que c'était un enfant qui avait de gros problèmes. Et finalement, c'est lui qui réagissait le plus positivement à notre action. Voilà. Et l'enseignante également, que cette enseignante-là a aussi parlé d'Amnesty aux enfants. Elle leur avait présenté Amnesty. On a senti qu'il y a derrière, il y avait aussi un travail qui était fait. Et ça, c'est positif.
Alors justement, hein, au-delà de cette journée spécifique, hein, sur les violences faites aux femmes, et peut-être d'une manière plus globale, les inégalités hommes-femmes, quelle est, pour nos auditeurs, hein, si tu pouvais rappeler l'activité d'Amnesty International d'une manière générale, hein, au-delà de cette journée?
Alors, l'activité d'Amnesty, c'est d'agir, alerter sur les différents pays, de ce qui peut s'y passer. Comme par exemple, aujourd'hui, on a une pétition à signer pour une avocate égyptienne qui est une défenseure des droits humains. Et cette personne risque 15 ans de prison parce qu'elle a déclaré qu'en Égypte, il y avait des viols de femmes. Donc, c'est aussi pour demander, par exemple, que au Nigeria, les gens puissent avoir accès à l'eau, parce que ça c'est quand même aussi important, que dans d'autres pays, les enfants ne soient pas mis au travail, ou que ça ne devienne pas des enfants soldats comme dans les pays qui sont en guerre en Afrique. On touche un peu à tout ce qui concerne les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Bien, je te remercie. Alors, si quelqu'un ou quelqu'une, hein, d'ailleurs, veut s'investir au sein du groupe local de Lens d'Amnesty, il y a une adresse de contact, il y a un téléphone, il y a un site internet.
Alors l'adresse de contact c'est Markeman au 03 21 45 26 23. Une adresse internet que je ne connais pas par cœur, je suis désolée. Et puis ensuite on fait nos réunions le premier vendredi du mois, donc c'est une réunion par mois. Et donc on se retrouve pour parler de ce qui se passe au niveau national, des directives qu'on a du secrétariat national, mais aussi des actions qu'on met en place dans les communes, comme par exemple une action d'aujourd'hui, pour essayer justement le plus possible de parler d'Amnesty et d'attirer l'attention des uns et des autres sur la problématique des droits humains dans le monde.
Eh bien, bonne continuation.
Merci, Lucien. Place maintenant à notre deuxième pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je vous invite à écouter un nouveau morceau du groupe Lise, William et toi.
Listo.
C'est maintenant l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Tous les reportages de Microrebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site microrebelle.fr à la rubrique Microrebelle reportage. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Microrebelle hebdo sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Pour cet extrait, nous vous proposons un échange en studio avec le groupe Pièces et Main d'œuvre à l'occasion de sa venue en région mi-novembre. Pièces et Main d'œuvre, souvent abrégé en PMO, est un groupe grenoblois engagé dans une critique radicale de la recherche scientifique, du complexe militaro-industriel, du fichage, de l'industrie nucléaire, des biotechnologies et des nanotechnologies. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Je vous laisse donc sans attendre en apprécier quelques passages et je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.
Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau reportage sur microrebelle.fr. Nous sommes aujourd'hui avec nos amis de Pièces et Main d'œuvre qui viennent de réaliser deux causeries, c'est leur terminologie, deux causeries, une à Mont-Saint-Barrel et une à Liévin, autour des préoccupations qui sont les leurs. Et donc, on a souhaité à Microrebelle aller un petit peu plus loin pour que nos auditrices et nos auditeurs prennent connaissance, justement, de ce qu'est Pièces et Main d'œuvre et surtout de ce que sont les finalités qui les guident, les enjeux pour eux importants aujourd'hui. Alors, je vais les laisser se présenter. Bonjour Pièces.
Bonjour.
Bonjour Main d'œuvre. Alors, je ne sais pas qui commence, peut-être pour resituer ce qu'est Pièces et Main d'œuvre, son histoire, ses...
Ok, bon, je vais m'y coller. Pièces et Main d'œuvre, d'abord, c'est pas un collectif, c'est pas une association, c'est des individus politiques, des animaux politiques. Et tu l'as dit, je crois qu'on est de Grenoble. Et en tant que Grenoblois, mais ce serait sans doute la même chose pour les Lillois, pour les Toulousains, pour les Bordelais, pour les Parisiens. On était malheureux de ce qu'était devenu notre ville. Peut-être que chaque génération connaît le même malheur, mais bon, nous, on a aimé cette ville quand on était jeune. Et ce qu'elle est devenue, sous l'impact des nouvelles technologies, de l'industrialisation, de l'industrialisation des hautes technologies, nous a rendus malheureux. La vie quotidienne nous a rendus malheureux à Grenoble. La vie politique en général, c'est-à-dire la vie publique en général, nous a rendus malheureux. Et plutôt que de prendre notre partie de notre malheur et simplement de subir ou de gémir et de déplorer à longueur de temps entre copains, ou de subir en quelque sorte, on a décidé d'enquêter sur notre ville et de la redécouvrir comme si on était des étrangers. Puisqu'on était devenus des exilés dans notre propre ville, on a essayé de dire, bon, bah, en tant qu'exilés, qu'est-ce que c'est que cette ville et qu'est-ce qui nous déplaît dedans ? Alors, bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on était tombé sur un article du Dauphiné Libéré, du Daubé, localement, à propos d'un laboratoire militaire où travaillaient des personnels civils syndiqués qui faisaient grève parce qu'ils étaient mécontents de la cantine, si j'ai bonne mémoire. Et à cette occasion, on a découvert un qui avait un laboratoire militaire en pleine ville de Grenoble, dédié au NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Deux qui avaient des personnels civils dedans, trois que ces personnels civils étaient syndiqués et quatre qu'ils avaient des gros soucis de cantine. Et ça ne troublait absolument personne à Grenoble, ville progressiste, écologiste et ainsi de suite. Enfin, c'est dans l'ordre des choses. D'ailleurs, c'est des personnels qui vont au travail en vélo.
On est en quelle année, là ?
Au tournant des années 2000.
Au tournant des années
début
2000. Et c'était dans le Dauphiné Libéré, d'ailleurs. Il y avait un article. Donc on a fait un texte, on a la plume facile, faut le dire, on a la plume facile. On a fait un tract pour en parler et pour s'étonner et même pour s'indigner, quoi. Le tract a eu du succès et en fait, on avait mis le doigt dans l'engrenage et depuis, on n'a pas cessé de porter sur notre ville un regard qu'on espérait vierge. Enfin... je crois que c'est Thoreau qui dit « Puisse toute chose habituelle nous inquiéter ». Et donc, on s'est habitué à voir notre ville comme si on était des étrangers, puisque de toute façon notre ville nous rendait étrangers. Et on n'a pas cessé de faire des enquêtes, c'est-à-dire des reportages sur notre propre ville.
C'est comme ça qu'on est tombé, Grenoble étant la mère de toutes les technopoles en France, c'est-à-dire un des laboratoires avancés des nouvelles technologies, et ce depuis plus d'un siècle. On avait en fait sous les yeux l'état actuel des recherches et de l'industrialisation de ces recherches. Donc on est tombé comme ça sur les tout débuts des nanotechnologies. Donc ça remonte aux années 2002-2003. On a commencé à faire nos premières enquêtes là-dessus. En 2006, à Grenoble a été inauguré le premier pôle européen de micro et nanotechnologie, Minatech. Donc là, on a organisé avec des copains, avec d'autres, la première manifestation mondiale contre les nanotechnologies. Et ensuite, on a suivi, effectivement, en creusant et en approfondissant les enquêtes et les recherches qu'on pouvait faire, on est tombé sur ce qu'on appelle aujourd'hui les NBIC, les technologies convergentes, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, les sciences du cerveau, qui sont le front actuel de l'innovation, les dernières avancées, et qui en fait préparent les outils qui aujourd'hui donnent lieu au développement du projet transhumaniste. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé presque par un heureux hasard, disons, les premiers un peu à voir émerger ça sous nos yeux, hein, tout simplement. C'était à Grenoble, il suffisait d'être un peu curieux, un peu intéressé pour voir émerger ça en fait au stade initial, au stade émergent. Voilà.
En fait, on pourrait consacrer tout le temps cet entretien à la question de l'enquête. J'imagine qu'on va parler d'autre chose, mais l'enquête est pour nous a une importance primordiale pour nous, au sens où c'est le moyen de s'auto-intellectualiser, de s'auto-éduquer en permanence. On fait partie des gens qui pensons qu'on n'est pas intelligent, mais qu'on le devient, et on le devient. Comment on trouve ? Comment on trouve ? Eh ben, on trouve en cherchant. Bon, et donc il ne faut jamais cesser de chercher et d'enquêter. C'est une obligation à vie. Et d'une part, et c'est ce qui nous permet de nous maintenir intellectuellement actifs et même intellectuellement conquérants, d'apprendre des choses. Donc c'est indispensable, à mon sens, pour tout être humain. Et deuxièmement, c'est encore plus indispensable, ou c'est aussi indispensable pour les gens qui prétendent intervenir sur la place publique, dans les affaires publiques, parce que bien sûr, tu peux dire des choses à l'aveuglette, tu peux parler de ton chapeau, comme disent les Anglais, mais c'est mieux d'avoir un peu enquêté pour savoir de quoi tu parles. Et plus tu enquêtes, et plus tu es à même de répondre aux gens en place qui prétendent savoir. Il y a une maxime du manuel de contre-insurrection de l'armée américaine qui dit que tout officier plombé dans un bled d'Irak ou d'Afghanistan ou je sais pas quoi doit le plus rapidement possible devenir le spécialiste mondial de son district. C'est-à-dire il doit connaître, pour pouvoir en vue de mener la contre-insurrection, il doit connaître les familles, les intérêts, la géographie, l'histoire, l'économie, la géologie si tu veux. Plus tu en connais, mieux ça vaut. Plus tu connais le passé, plus tu as des vues sur le futur. Et ben, c'est la même chose pour nous. Si on veut faire de la politique, il faut que nous soyons les spécialistes mondiaux de l'endroit où nous vivons. Et ça ne s'arrête jamais parce que sans cesse, ça change et ça bouge. Donc ton enquête n'est jamais finie. Et c'est une perpétuelle enquête en cours.
Alors justement, les débats auxquels on a participé ce week-end, hein, c'est un premier débat sur le transhumanisme, un deuxième débat sur ce qu'on peut appeler d'une manière globale le monde machine, hein, la ville machine, la smart city. Qu'est-ce qui structure un petit peu tout ça? Quels sont les enjeux que pièces et main-d'œuvre voient derrière tout ça? Et comment un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres exemples peut-être, hein? Il y a eu deux débats, mais il y aurait peut-être pu en avoir plusieurs. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est un développement accéléré des technologies qui répond en amont à une quête unique, je crois, qui est l'éternelle quête de la techno-industrie, qui est celle de l'efficacité. L'efficacité est au cœur de... Enfin, la recherche de l'efficacité et motorise réellement les recherches et développements menés par les laboratoires, qu'ils soient privés, publics, de l'université ou de l'industrie. Quand on regarde les discours tenus par les promoteurs de ces technologies. Il s'agit toujours de gagner en efficacité, d'optimiser ce qu'on entreprend, de rationaliser. Il y a à l'œuvre un processus presque fou quand on regarde sur le long terme et sur ses conséquences qu'il produit sur nos vies, un processus quasiment fou de rationalisation. L'idée de raison est intéressante, mais l'idée de raison poussée à fond, au maximum, finalement, devient folle. C'est ce à quoi nous assistons. Et quand on parle de transhumanisme ou quand on parle de Smart City, nous, on avait résumé ça d'une formule il y a déjà quelques années, en parlant d'un processus d'incarcération de l'homme-machine dans le monde-machine. Et les deux aspects de la question, la fabrication d'un monde-machine, c'est-à-dire de plus en plus piloté automatiquement par les machines, par des dispositifs automatisés, que chacun peut constater dans sa vie, puisque maintenant on a tout le temps affaire à des machines quand on a des démarches à faire ou quand on vit dans la ville. Et en même temps, pour s'adapter à ce monde-machine, la mise en place d'outils pour transformer l'homme lui-même en machine, mais c'est pas juste une image, c'est-à-dire que le projet du transhumanisme, c'est réellement d'hybrider l'homme avec des prothèses, des implants machiniques efficaces, toujours plus efficaces pour le rendre plus performant. Nous, on avait résumé ça donc comme l'incarcération de l'homme-machine dans le monde-machine, et c'est ce qui est à l'œuvre dans tous ces développements de technologies. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Nous, on a, à force de réfléchir, d'enquêter et de se creuser la tête, au fond, il nous est apparu. Parce que quelquefois, les gens nous disent c'est le capitalisme, ou c'est la finance, ou c'est
le système industriel.
Le système, voilà. On s'est dit qu'en amont de ça, si on voulait remonter finalement à une source quasiment anthropologique, il y avait l'idée de volonté de puissance. Il y a chez certains humains, et on insiste là-dessus, nous ne sommes pas tous également responsables de ce qui advient, parce qu'il y en a qui ont du pouvoir et d'autres qui ne l'ont pas. Et chez ceux qui sont les maîtres des machines, peut s'exprimer cette volonté de puissance de façon débridée, de plus en plus, et de plus en plus, de façon de plus en plus rapide et de plus en plus forte. Par exemple, les patrons des grandes entreprises de la Silicon Valley, Google, Apple, Facebook, Amazon et compagnie, investissent des milliards dans des technologies dont ils espèrent retirer une puissance phénoménale. Ça veut dire qui accroît leur capacité personnelle individuelle, c'est-à-dire les rendre plus performants d'un point de vue physique, intellectuel et même moral. Hein, c'est ça l'idée de l'homme augmenté. Et même, espèrent-ils, peut-être atteindre l'immortalité, ou en tout cas la mortalité, ce qui signifie le fait d'une longévité accrue. Certains parlent de vivre 1000 ans. Enfin bon, on est dans les... Là, on est un petit peu dans les,
en fait,
dans les fantasmes.
En fait, il y a un élément, il y a un niveau qui est, je dirais, atemporel et transhistorique, hein, qui est métaphysique, qui est la volonté de puissance. Bon, volonté de puissance, c'est-à-dire volonté de pouvoir, d'omniscience, de jouissance, de prestige, une volonté d'autodivinisation, devenir Dieu, devenir un homme Dieu. Bon. Ça, c'est un point. Et puis, de façon transitoire, il y a les formes que ça revêt historiquement. En quoi s'incarne la volonté de puissance historiquement? Bon, je suppose qu'à l'époque préhistorique, ça s'exprimait par des gros muscles et une grosse massue. Et puis, il y a les champs, la terre et les vaches. Ça, c'est un moment... Les vaches, c'est le cheptel. Bon, cheptel, c'est le même mot que capital. Caput capitis. Le cheptel, c'est l'ancêtre du capital. De la même façon que pécou, le troupeau en indo-européen, eh ben, en français moderne, ça donne à la fois la pécore, c'est-à-dire le bétail, et la pécune, l'argent. Bon. Donc, la volonté de puissance s'incarne par la terre, le bétail, puis les guerriers... l'époque féodale, enfin la puissance militaire, et puis à la fois au Moyen-Âge, concomitamment, à la fois les débuts du machinisme au sens moderne et du capital financier au sens moderne, qui devient hégémonique à partir du XIXe siècle. Mais je ne crois pas que les capitalistes soient possédés au niveau le plus fondamental par l'envie d'amasser. Et l'envie d'amasser... ou d'avoir du retour sur capital, C'est pas pour entasser des signes monétaires ou des zéros derrière une virgule. C'est parce que derrière ça, c'est de la puissance. De la puissance, la possibilité de faire. Et c'est parfaitement clair avec les jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley, qui sont tous des gamins qui sortent du MIT, etc., qui ont des blue jeans troués et des t-shirts. Leur problème, c'est pas d'entasser des zéros. Leur problème, c'est de fabriquer des entreprises, de fabriquer des systèmes, de fabriquer des machines. Et le stade actuel de l'accaparement et de la puissance, ce sont les machines. Alors ça mérite quand même qu'on s'y arrête un instant. Le mot machine remonte à une étymologie grecque, mécané. Bon, mécanique, machine, c'est le même mot. Hein. Et les mécanés en grec, ça signifie aussi les moyens. Donc, quand on accumule des machines chez les Grecs, on accumule des moyens. Quand on accumule des moyens, ça passe par des machines. Et on y retourne maintenant. On retrouve maintenant le vieux sens de l'étymon grec. L'accaparement des machines, la faculté de pouvoir machiner, la faculté de machination, la faculté de s'auto-machiner et donc de s'auto-diviniser, c'est un accaparement de la puissance et des moyens de la puissance. Bon. Et donc, c'est à ça que nous avons affaire. Et le capitalisme, bon, bah, c'est une formation sociale et économique qui, elle, pour le coup, n'est pas transhistorique, qui est parfaitement historique, qui existe depuis le Moyen-Âge, qui devient hégémonique au XIXe siècle, mais qui peut perdre son hégémonie. L'accaparement du capital peut disparaître au profit de l'accaparement des machines et de la grande machinerie, et les capitalistes redisparaître comme ils sont apparus, au service d'ingénieurs entrepreneurs, et être substitués par des ingénieurs entrepreneurs. Mais c'était ça aussi les débuts du capitalisme. Hein. Tous ces grands Écossais, tous ces grands Anglais qui fondaient des entreprises, c'était des ingénieurs qui récoltaient du capital auprès de leur famille et de la banque.
Alors effectivement, si j'écoute bien un peu ce fil rouge hein, qui parcourt un petit peu la réflexion de Pièce et Manœuvre, bon, j'imagine bien que, encore que les débats qu'on a vus, les débats auxquels j'ai assisté, il y avait vraiment des gens qui étaient motivés, intéressés et qui accrochaient tout à fait à cette réflexion. Mais j'imagine bien, ceci étant par ailleurs, que c'est un discours, une réflexion qui reste minoritaire et à contre-front d'un certain nombre de préoccupations dans les médias, dans les organisations politiques, syndicales, associatives, etc. Typiquement, sans doute, est-ce que la réflexion, ben finalement, vous êtes contre le progrès, vous devez l'entendre plus qu'à votre tour.
Oh, au début, on s'était fait traiter d'obscurantiste. Bon, maintenant, on est traité de réactionnaire. Oui, on est censé être contre le progrès. Alors, cette formule, elle est lapidaire et elle n'est pas complète, surtout. Parce que le mot progrès, d'abord, n'a pas toujours eu une connotation positive et favorable comme il l'a aujourd'hui. Puisque le mot progrès, ça signifie au départ simplement une avancée. Mais on parlait aussi bien des progrès de la maladie, des progrès d'un incendie, des progrès de la famine. Donc tout ça n'a rien de positif. Bon. Et puis, à partir du 19e siècle, et avec l'avènement justement de la techno-industrie et de cette révolution industrielle à ce moment-là, le progrès devient synonyme en fait de progrès technologique, de progrès scientifique. Et là, il acquiert toujours une dimension positive et favorable. Un progrès, c'est toujours vu maintenant de façon positive. Mmh. Bon, mais encore une fois, les progrès de la maladie, c'est pas une bonne idée. Bon.
Être de gauche, c'est être progressiste.
Et de plus, être de gauche, c'est être progressiste. Et donc, on a, depuis le 19e siècle, assimilé, confondu le progrès scientifique et technologique avec le progrès social, le progrès humain. Or, pour qui prend un peu de recul et retrace un peu la trajectoire des sociétés dites progressistes, ou en tout cas qui ont mis ça en œuvre depuis le 19e siècle, on s'aperçoit, et même maintenant les académies les plus officielles le disent, qu'après 150 ans de progrès ininterrompu, la situation n'est pas brillante. puisqu'on a un chaos climatique qui menace, sixième extinction des espèces, des maladies émergentes inquiétantes et un chaos social qui menace également, dû à cet effondrement du milieu. Bon. Donc, à un moment donné, il faut regarder les termes et se dire, eh bien, en fait, il n'y a pas de corrélation. Et c'était une mystification de faire croire qu'il y avait corrélation entre progrès technologique et progrès social et humain. Et on en arrive maintenant à la conclusion qu'il y a même antinomie, c'est-à-dire que désormais, toute avancée technologique, donc tout progrès technologique, conspire contre le progrès social et humain, parce qu'il va avec une dépossession de notre autonomie d'organisation ou de savoir ou de pensée, il va avec une aliénation croissante vis-à-vis des maîtres de ces technologies-là. Hein, je répète, nous ne sommes pas tous égaux face à ça. Et puis, il entraîne beaucoup de souffrances. On parle beaucoup de la souffrance au travail, des gens qui ne peuvent plus exercer leur métier de façon humaine, parce qu'ils sont soumis à la fois aux règles de la technologie et du management, qui vont dans le même sens. Donc, on voit bien que là, il y a un mythe à faire tomber, et notamment à gauche, bien sûr.
Ouais. C'est Marx qui, en 1853, disait que la vapeur est...
La vapeur conspire contre le statu quo.
Il y avait autre chose, la vapeur.
Et l'électricité.
Enfin, 53, il était précoce. Oui, Marx disait en 1853 que la vapeur et l'électricité conspiraient contre l'ordre établi.
Le statu quo.
Statu quo, oui. Mais la vapeur et l'électricité, ce n'est pas des forces impersonnelles. Enfin, ou plutôt, c'est des forces impersonnelles, mais derrière la vapeur et l'électricité, il y a des maîtres de la vapeur et de l'électricité. Et le peuple était loin d'être progressiste. À telle enseigne qu'il y a eu de nombreuses révoltes populaires et ouvrières contre le progrès, contre les machines, des destructions de machines que Marx déplorait et dénonçait. Pour lui, c'était un signe d'immaturité de la classe ouvrière que de détruire les machines, de s'opposer aux tricoteuses mécaniques, aux textiles, enfin bon. Il y a un livre qui documente ça, ça s'appelle les Luddites. Enfin bon, il y a beaucoup de livres sur les ouvriers luddites en Angleterre, mais cela mis à part, il y a un livre qui s'appelle Les Luddites en France, un gros bouquin qui documente toutes sortes de résistances ouvrières à la mécanisation en France au XIXe siècle. Bon, il y a eu des exemples fameux chez nous, par exemple à Lyon, enfin avec Vaucanson. Enfin bon, c'était à Rouen aussi des ouvriers imprimeurs. Enfin bon, le peuple était loin d'être de gauche. La gauche, en fait, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. La gauche, à l'origine, c'est un parti bourgeois. Bon. Et le peuple se situait, enfin la classe ouvrière se situait en dehors du champ politique. Moi, j'ai beaucoup lu sur les Canuts récemment. Les Canuts n'étaient pas... Il y avait des Canuts révoltés qui étaient royalistes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, et donc, la classe ouvrière lyonnaise ne s'est située que petit à petit dans le champ politique. Elle campait sur son terrain social. Et il a fallu tout le 19e siècle, et surtout vers la fin du 19e siècle, avec les anarchistes, les blanquistes, etc., pour qu'elle se politise et qu'elle se politise à gauche. Mais, à gauche. Le ralliement à la gauche, c'est l'affaire Dreyfus. Hein. Bon. Mais avant, non.
Parce que ce qui faisait justement que, comme tu dis, la classe ouvrière n'était pas intrinsèquement pour le progrès. Hein. Il y avait les briseurs de machines. Qu'est-ce qui fait que la classe ouvrière était comme ça? C'était peut-être des traditions vernaculaires, des savoir-faire paysans, qu'est-ce que c'était
Si on prend l'exemple des ouvriers luddites anglais, donc qui sont les plus célèbres, hein, d'où est venu ce nom-là.
Donc les briseurs de machines à tisser.
C'est les briseurs de machines à tisser et du milieu du textile, donc qui interviennent en gros pendant 3 années à peu près autour de 1810 dans 3 comtés du centre de l'Angleterre. C'était typiquement des ouvriers qui étaient plutôt des artisans, en vérité, des maîtres ouvriers. C'est-à-dire qu'ils travaillaient à domicile avant. Ils avaient des machines pour les aider dans leur travail textile, mais ces machines, ils les construisaient eux-mêmes. Ils les faisaient à leurs mains, hein, selon les besoins qu'ils avaient. Ils savaient les entretenir. Bon, ils en étaient maîtres de leurs machines. Et surtout, ils organisaient leur vie et leur travail à leur façon, dans la communauté familiale ou villageoise. Donc, en plus de ça, ils avaient des potagers, ils allaient à la pêche, à la chasse, il y avait les droits de pâture, il y avait une forme d'autonomie.
Ils avaient leurs propres horaires.
Voilà, et ils s'organisaient comme ils voulaient. On dit souvent, quand ils décidaient de ne pas travailler le lundi, bah, ils disaient que c'était la Saint-Lundi. Hein. Bon, voilà. Donc, du moment que le travail était fait et qu'ils produisaient les pièces textiles pour leurs commanditaires à temps et de façon bien réalisée, bon, ils s'organisaient comme ils voulaient. Il y avait une autonomie et une solidarité au sein de la communauté, mettons, villageoise ou familiale. Ce que vient détruire la fabrique, quand elle s'impose donc avec des machines et la vapeur, c'est-à-dire l'industrialisation.
Et la discipline de fabrique.
C'est le fait que désormais, on ne travaille plus à la maison, mais on va à la fabrique, on respecte des horaires et des jours. Il y a une discipline de fabrique très dure. En plus, on embauche les enfants, les femmes, tout le monde est sommé d'aller travailler à l'usine avec des horaires très longs. Hein. Et là, les machines, ce n'est plus les ouvriers qui les maîtrisent et qui s'en servent à leur main, à leur façon, mais c'est eux qui deviennent les appendices des machines. Ils doivent se soumettre à la procédure, parce que justement, l'industrialisation, c'est d'abord ça. C'est d'abord des procédures. J'en reviens à mon propos tout à l'heure, c'est pour rationaliser et être plus efficace. Pas question de faire chacun avec son petit truc, son savoir-faire, son tourne-main. Non, on fait tous les mêmes gestes rationalisés. Et donc, les ouvriers ludites se révoltent contre ça. Non pas parce qu'ils pensent que les machines vont les priver de leur travail, comme on dit souvent, hein, il y a la crainte du chômage, c'est pas ça qui les motive. Ce qui les motive, c'est ça, c'est la perte d'autonomie, d'organisation dans leur propre vie quotidienne, la perte des savoir-faire qui sont incorporés dans la machine, qui leur échappent. Et enfin, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils considèrent que ces machines des fabriques font un travail dégueulasse et que les pièces produites en série ne sont pas de bonne qualité. Or, c'est des gens qui considéraient que dans le produit qu'on fabrique soi-même, on met une part de soi, il y a une qualité. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, parce qu'on sait très bien que comment est valorisé encore le fait main, le fait maison.
Le cousu main.
C'est toujours plus cher. Bon. Donc, c'est des gens qui étaient attachés principalement à des valeurs, on peut dire qu'elles étaient anciennes, éventuellement, mais qui avaient du contenu, qui avaient du sens. Voilà. Leur vie avait du sens et tout d'un coup, elles n'en avaient plus. C'est ça qui a motivé le fait que pendant 3 ans, ils ont brisé des machines au risque de leur propre vie, puisque le Parlement anglais a voté une loi qui punissait de pendaison les briseurs de machines. C'est-à-dire que le fonctionnement d'une machine avait plus de prix que la vie d'un homme, quoi.
Alors si on fait un petit bond en avant pour revenir un petit peu à notre époque, hein, bon, il y a eu aussi des briseurs de machines. Hein, par exemple, le groupe Clodo à Toulouse, hein, qui brisait les ordinateurs. Mais aujourd'hui, hein, en 2017, comment est-ce que vous positionnez cette question justement de l'autonomie, de la dépendance, de la dépossession? Comment est-ce que vous l'appréhendez?
Bon, d'abord, il faut juste faire une petite parenthèse pour dire qu'il y a des héritiers, des ludites et des briseurs de machines encore aujourd'hui, d'après nous, et ce sont les faucheurs d'OGM. Ils perpétuent cette tradition. En quelque sorte. Ce sont les seuls, à ma connaissance. Enfin, il y a quelques bris de machines, ça et là, mais enfin, c'est très marginal. Alors que les faucheurs ont quand même une activité régulière, importante et maintenue, quoi. Voilà.
Bon, l'actualité des briseurs de machines.
Sur la dépossession,
ou,
c'est ça sur...
ou l'actualité aujourd'hui de la mise au travail au travers des machines, par les machines, par les logiciels.
Le fait que l'humain est évincé.
Quel tableau vous brossez aujourd'hui, justement?
Le tableau apparent, c'est celui de la victoire des machines. Les machines ont gagné. Enfin, les machines ont gagné. Beaucoup de gens, la plupart des gens, même quand ils n'aiment pas les machines, ont intériorisé un fatalisme qui leur fait dire qu'on n'arrête pas le progrès. Ce qui, au passage, ne donne pas une idée très flatteuse du progrès. Ça paraît plus quelque chose qu'on subit que quelque chose qu'on applaudit.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.